nasıl be?
Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de vous réveiller avec Un autre jour est possible. Dans un instant, notre série consacrée à Astérix, Astérix, un Européen partout à Tis, en partenariat avec Philosophie Magazine et en compagnie de Sven Ortoli qui a coordonné un hors-série consacré à ce héros de la bande dessinée qui devient maintenant un héros multidimensionnel puisque un autre film adapté d'une aventure d'Astérix sort la semaine prochaine en animation en 3D, il s'agit du Domaine des Dieux. Et puis en deuxième partie, comme tous les vendredis, l'actualité de la bande dessinée. Et aujourd'hui, parce que Astérix, nous recevons l'immense dessinateur Uderzo. Ah, c'est un moment exceptionnel. Uderzo en train de dessiner une tête d'Astérix pour Un autre jour est possible. Uderzo, chez lui. Vous dessinez souvent debout?
Ah non, non, non. Je dessine là parce que c'est un Astérix que je vous fais en grande taille. Sinon, non, non, je travaille chez moi. Assis, Dieu merci. Bah écoutez, il a encore de l'allure, Astérix.
Bah oui. Et vous commencez toujours par le nez?
Toujours. C'est un tic chez moi. Allez, maintenant on va faire le noir. C'est toujours un peu long.
Qu'est-ce que vous aimez le plus dans le métier, dans votre métier de dessinateur, le côté artiste ou le côté artisan?
J'ai toujours dit que j'étais un artisan. Mon père était un artisan. Il était luthier, il faisait des guitares. Et des guitares qui étaient bien spécifiques à lui-même. Eh bien, j'ai toujours eu une sorte de régal à voir mon père travailler. Et j'aime mieux me considérer comme un artisan. Voilà.
Voilà, ce dessin d'Astérix pour Un autre jour est possible et sera disponible à la fin de l'émission sur franceculture.fr, à la page de l'émission Un autre jour est possible. Et nous, on retrouve Albert Uderzo à 6h15. Sven Ortoli, bonjour.
Bonjour.
Astérix, un Européen partout à Tis, en partenariat avec Philosophie Magazine. Vous avez coordonné un hors-série où des philosophes ont parlé, ont disséqué ce Astérix, donc plus que jamais parlant d'Astérix, le moraliste. Est-ce qu'il y a une morale dans les aventures d'Astérix?
Ah oui, sans aucun doute. C'est même l'une des particularités, l'un des intérêts majeurs de la série. C'est l'aspect, au fond, l'aspect moraliste de Goscinny. C'est ce que relève tous ceux qui l'ont lu, écoutez la philosophie, puisqu'on a toujours tendance à lire à l'aune de sa culture, mais il y a dans chaque aventure un aspect, on va dire, politique, une lutte contre une domination qui fait le ressort de l'aventure, mais l'autre qui fait une partie du ressort de l'aventure. Mais l'autre partie de ce ressort, c'est évidemment l'aspect moral, au sens, il se joue quelque chose, un vice ou une vertu, dans une aventure. Prenons par exemple la zizanie ou le domaine des dieux ou Obélix et compagnie. Il y a toujours une qualité humaine, vice ou vertu encore une fois, qui va être mise à l'épreuve. Dans l'album La Zizanie, qui est un album tout à fait remarquable dans son analyse très fine des pouvoirs de la calomnie, puisque c'est l'idée de l'album, c'est pour réduire l'irréductible village gaulois, César, On conseille à César l'utilisation d'un personnage, détritus, je crois, qui
va semer la zizanie.
Qui va semer la zizanie et qui le démontre à César d'une manière tout à fait éclatante. Et voilà, c'est un album très, très drôle, très intelligent et qui décortique parfaitement ce que c'est que la zizanie et qui décortique aussi comment y résister. Et c'est en cela que l'aspect moraliste de Goscinny surgit, c'est qu'il montre à chaque fois qu'il y a donc une épreuve et on vainc l'épreuve non pas forcément par l'intelligence. En ce qui concerne l'aspect zizanie, le grand vainqueur de l'aventure, c'est pas Astérix d'ailleurs qui est le plus intelligent des deux dans ce couple, c'est pas Astérix, c'est Obélix. Obélix qui va triompher de cette zizanie parce qu'il a une bonté essentielle. Il est tellement bon, d'ailleurs, remarque Frédéric Worms, qui est comparable à certains personnages de la littérature, en particulier chez Dostoïevski. C'est un personnage qui est pétri de ça, c'est-à-dire qu'il est... Alors, il est capable de colère, il est capable de jalousie, il a des défauts. Tous les personnages d'Astérix sont humains, et en sens de bons représentants de ce que nous sommes. Mais il a cette capacité, cet amour, cette amitié fondamentale qui le lie à Astérix et qui fait que il passe par-dessus. Au fond, il finit par casser, y compris les mécanismes les plus durs, y compris les mécanismes de servitude que sont ceux de la zizanie. Dans l'autre album, qui est celui qui fait l'objet du film qui va venir, à savoir dans Le Domaine des Dieux. Vous savez, l'histoire du Domaine des Dieux, c'est assez bien vu, puisque, quand je dis c'est assez bien vu, c'est évidemment un euphémisme qui veut dire c'est très bien vu. Il sort en 71, 72, quelque chose comme ça, à un moment où on a construit une Parly 2, qui est à l'époque le parangon de ce qu'on espère voir surgir dans le futur, c'est-à-dire des villes assez autonomes où on trouve tout, le supermarché, le parking, tous les biens culturels aussi, les cinémas, les librairies, etc. Et on s'imagine qu'on va pouvoir rassembler des gens là-dedans et en faire une sorte de village, justement, le village de Parly 2. Et c'est vendu comme tel, c'est vendu comme un village, d'ailleurs, à l'époque. Quand on voit les prospectus, la promotion de ce truc qui est devenu, qui a un peu vieilli aujourd'hui, et qui correspond aux années 70, aux années qui précèdent à la fois le choc pétrolier de 73 et les années fric, c'est-à-dire les années 80, qui annoncent tout ça. Vous avez cette période de construction de grands ensembles où on dit vous allez être heureux dans cet endroit. Et évidemment, quand on regarde ça avec le recul de 40 ans, on se dit on est peut-être très heureux. Je n'ai rien contre les gens qui vivent là aujourd'hui, évidemment. On est peut-être très heureux, mais ce n'est pas un paradis. C'est présenté comme un paradis. Un peu, si vous me permettez cette digression, comme des villes aux États-Unis comme Sun City ou équivalent, qui sont des villes qui sont réservées à des seniors qui n'ont le droit de recevoir leurs petits-enfants que certains jours de la semaine et qui vivent dans un univers totalement fermé où ils sont protégés de l'extérieur. Ça, c'est une autre. C'est, si vous voulez, le village d'Astérix dans une version dystopique complètement. C'est le village d'Astérix revu par Orwell. Mais dans le village des dieux, l'hypothèse, c'est tiens, on va vous construire, les Gaulois, ils ont de la force, on peut pas les réduire par la force, on va les réduire par la consommation. C'est vachement bien. C'est-à-dire que c'est l'idée de proposer le domaine des dieux, donc autour du village, de construire de grands ensembles dans lesquels, à grand coup de promotion, dans lesquels les riches romains et aussi les Gaulois vont pouvoir s'installer et consommer l'Empire. Donc, encore une fois, on est dans la métaphore de l'Empire américain, mais surtout la métaphore de la consommation. C'est l'époque où Baudrillard fait une magnifique analyse, Jean Baudrillard fait une très intelligente analyse de Parly 2 et de ce que ça représente, de cet univers de consommation. Cet univers, si vous voulez aller voir vous pouvez lire Baudrillard et vous pouvez aussi lire Astérix et vous pouvez lire Le Domaine des Dieux, vous pouvez le voir en film, parce que c'est vraiment un mécanisme extraordinairement clair de l'annexion, si vous voulez, de l'annexion d'une culture par la consommation. Ça, c'est un des messages de fond. C'est aussi
d'actualité.
D'où le. Mais là, on retouche au fond chacun des domaines qui sont envisagés dans Astérix. Vous avez quoi ? Vous avez c'est des domaines qui touchent aussi bien la philo que la BD, que la littérature, que notre vie tous les jours. C'est l'amitié fondamentale dans Astérix.
Ouais.
La résistance. Hier comme aujourd'hui, il suffit d'écouter la radio aujourd'hui, vous verrez que évidemment la résistance joue un rôle fondamental. Vous avez l'amitié, vous avez la résistance et vous avez qu'est-ce que je fais, dans quel monde je veux vivre. Est-ce que je veux vivre dans un monde qui consomme beaucoup? Est-ce que je veux vivre dans un monde qui accepte les cultures des autres? Mais comment il les accepte? Est-ce que je veux vivre dans un monde dont la culture est trop dévorante pour moi? Parce que c'est ça la problématique évidemment de l'Europe aussi. Et est-ce que je veux vivre dans un monde avec frontières ou sans frontières? Qu'est-ce que ça signifie une frontière? Qu'est-ce que ça signifie si je l'enlève? Et qu'est-ce que ça signifie si je veux à tout prix la remettre?
Alors Sven Ortoli, pour revenir au domaine des dieux, oui. Finalement, le choix d'Astérix, d'Obélix et de nos sympathiques Gaulois, donc les héros de cette bande dessinée, c'est quand même le retour à la Terre, hein, plutôt que la modernité. Plutôt que de se compromettre avec la modernité, on préfère le retour à la Terre. Et au village...
Je vous vois venir.
Mais parce que c'est assez récurrent, en fait, chez Astérix. Hein, la femme du chef du village, quand elle va découvrir Lutèce, elle est elle-même tentée par la consommation. Mais il y a toujours cette morale qui va la rappeler vers le bon village, la terre, les bonnes bagarres, la bonne bouffe, et bien sûr, le bon banquet final.
Et bien sûr, le banquet final. Mais alors, ce retour à la Terre, vous pouvez l'interpréter de tas de manières. Vous pouvez l'interpréter d'une manière en disant...
Complètement archaïque ou complètement écolo. Oui,
ou tout simplement en disant, c'est une bande dessinée c'est une bande dessinée pour enfants d'abord, même si c'est lu par des adultes aujourd'hui. Parce qu'on ne vend pas à chaque BD, chaque année, la nouvelle BD est vendue à 2 millions, 3 millions d'exemplaires en France. C'est des chiffres phénoménaux. Donc ce n'est pas des enfants qui achètent, c'est toute la famille qui achète. Mais c'est d'abord fait pour les enfants. Donc le retour au village, c'est aussi le retour dans le giron familial. Donc vous pouvez l'interpréter de tas de manières.
Mais comment vous l'interprétez? Comment, par exemple, quand ce barde est complètement malmené, quand il est exclu de la fête, quand il est bâillonné, est-ce que vous prenez ça au premier degré en disant ces rustres gaulois n'aiment pas du tout la culture, ils préfèrent boire, manger, danser, se bagarrer, ou c'est une autre manière de faire l'éloge des retrouvailles populaires?
Alors il y a plusieurs éléments. Il y a le premier d'entre eux, c'est que ce n'est pas contre la culture, il n'y a aucun doute, parce que le barde est aussi le prof. Assurance Tourix, Goscinny le dit, c'est Assurance Tourix, c'est quelqu'un qui enseigne aux enfants. On le voit enseigner à plusieurs reprises. Et on dit c'est le meilleur ami du monde, sauf quand il chante. Donc c'est exclusivement sur le côté chant que se situe la problématique « non, tu ne chanteras pas ». Quelle est la fonction du barde? La fonction du barde, que ce soit chez Homère ou que ce soit en Yougoslavie au XVIIIe siècle, c'est de porter la mémoire collective. Et c'est de porter des histoires. Donc là, on a... Vous pouvez vous livrer à une interprétation du barde en disant, attendez, il est dans cette période où on va reconstruire la mémoire collective des Français. Encore une fois, j'en reviens à la défaite, j'en reviens à l'après-guerre, j'en reviens au sentiment, et j'en reviens à la monde, et puis on retouche à la mondialisation et à la construction de l'Europe. Il faut reconstruire notre mémoire, parce que sinon, ça ne marche pas. Donc, le barde, lui, on l'empêche de chanter. On l'empêche de chanter parce que sa voix. Il y a des chants, sinon, lorsque Goudurix, le jeune homme de Lutèce, vient, il fait danser tout le village sur le Monkix, l'équivalent du Monkey, qui est une danse populaire, enfin, une danse yéyé, on va dire, venue d'Angleterre, où il fait danser sur les Beatles. Donc, le barde, il est bâillonné en tant que porteur de la chanson populaire, de la chanson d'avant-guerre, de la chanson qui nous a conduit à la défaite. Ça, c'est une interprétation. Après, vous pouvez dire simplement, attendez, vous êtes rigolo, C'est juste assez drôle parce que vous connaissez forcément quelqu'un qui chante, qui a des prétentions à chanter et faire de la chanson populaire, parce que la chanson populaire, c'est parce que la ritournelle, c'est quelque chose de très important, et on le baïonne parce qu'il chante mal.
Voilà. Et puis enfin, pour terminer, le banquet final, c'est quoi?
Alors le banquet,
c'est du Platon corrigé par Rousseau.
C'est Platon corrigé par Rousseau. Oui, vous avez raison. C'est le banquet en philosophie, c'est le moment de la dispute, le moment où Socrate fait face au poète Aristophane, fait face à la science sur un thème qui peut être l'amour, qui peut être la violence, qui peut être la guerre. Et puis ça se dispute, c'est ça la dialectique. Eh bien, la dialectique dans le village, c'est un peu différent, parce que à la fin du banquet platonicien, on s'est disputé et on n'est pas bien sûr d'avoir trouvé la réponse. À la fin du banquet gaulois, on s'était disputé avant, on se réconcilie autour de ma bouffe et on rit sans aucune recherche de pouvoir. Et c'est en ça qu'on retrouve plutôt une vision rousseauiste de l'homme et de la nature, de l'homme naturellement bon, qui est une vision rousseauiste, hein, c'est entendu. Mais c'est en ça que ça, vous avez ce mélange entre Platon et Rousseau, enfin, parce qu'il faut bien qu'on tire un petit peu vers la philosophie à un moment. Le banquet, on ne pouvait pas y échapper. C'est une jolie définition.
Merci Sven Ortoli. Pour poursuivre cette lecture d'Astérix par la philosophie, par les philosophes, ce beau numéro de Philosophie Magazine est hors série entièrement consacré à Astérix. L'intégralité de cette série est désormais disponible au podcast en passant par franceculture.fr. Tout est à votre disposition à la page Un autre jour est possible. Merci beaucoup Sven Ortoli de nous avoir accompagnés cette semaine.
Merci de m'avoir reçu.
Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel.
Et mon invité du jour, on ne pouvait quand même pas terminer cette semaine consacrée à Astérix sans venir vous voir. Monsieur Uderzo, bonjour.
Bonjour. Bonjour, je suis très heureux de vous voir. Vous êtes le premier qui venait me voir depuis que j'ai eu un petit problème de santé qui s'est bien passé. Finalement, la preuve, c'est que je suis là aujourd'hui. Mais je n'avais plus de voix, je n'avais plus de jambes, et c'était très embêtant.
Et avec Astérix, pour parler tout de suite d'Astérix, est-ce qu'à un certain moment, vous avez eu une panne d'inspiration pour parler des choses embêtantes, Uderzo?
Oh, des pannes d'inspiration, oui et non. C'est-à-dire que à vrai dire, après le départ de mon malheureux ami, qui nous a quittés maintenant, on le sait, il y a 37 ans, disons que les choses n'ont pas été drôles pour moi, d'abord parce que j'avais perdu, évidemment, ce frère à laquelle je tenais au combien, et qui, pour moi, ça a été un bouleversement épouvantable. Mais je me suis rendu compte que je n'avais pas marqué mon poids sur le personnage de la part de vos confrères qui disaient que René Goscinny étant mort, Astérix était mort également. Je n'apparaissais nulle part et j'ai eu un petit coup quand même de... Je n'ai jamais essayé de jouer les gros bras, mais là quand même j'ai quand même été un peu sérieusement secoué de voir que je n'apparaissais nulle part dans toutes les... Dieu sait que la presse a parlé évidemment de ce malheureux phénomène, ce malheur qui est arrivé pour tous les lecteurs et pour moi-même, et pour la famille évidemment. Mais c'est que on se foutait pas mal de deuxième co-auteur que j'étais et qui était perdu dans l'ombre. Et ça m'a donné un coup de pouce extraordinaire. Je me suis dit, puisqu'on ne me reconnaît pas, je vais essayer de me faire reconnaître. Et là, je me suis mis à ma table, j'ai décidé d'abord une chose, je ne voulais pas retomber entre les mains d'un autre, éditeur avec lequel on avait eu quelques problèmes. J'ai tenu à faire ma maison d'édition, c'est comme ça que j'ai créé les éditions Albert et René. Je n'ai pas mis René en avant parce que René Albert, ça ne sonnait pas bien. Et puis, et là, je me suis mis au travail. Je me suis mis au travail d'abord, évidemment, pour créer un scénario. C'est comme ça que j'ai créé le premier. Donc, qui se trouve être le Grand Fossé. Et à la sortie du Grand Fossé, la chose extraordinaire, c'est que les critiques étaient passables, mais il y en a une que j'ai adorée qui a dit « C'est certainement un dernier scénario qui avait laissé René Goscinny avant de mourir. » Pour moi, ça a été pour moi le plus beau, la plus belle marque de reconnaissance que je pouvais recevoir. Si on comparait ça à un travail fait par René Goscinny, c'est que ça valait le coup. Voilà, c'est comme ça que je suis parti dans cette aventure. Je dois dire que ça m'a fait beaucoup de bien. L'effet inverse de ce que j'espérais à l'époque de la part de la presse m'a donné un coup de pied extraordinaire pour redémarrer la série. Sinon, je ne sais pas si j'aurais eu le courage de le faire. Certainement pas, parce que...
C'est votre envie de rappeler que vous étiez deux, que vous étiez tout aussi auteur.
Absolument, car nous avons toujours été deux dans tous les domaines, dans la construction, dans... Bon, évidemment, lui était à l'écriture, et ça, il était magistral, on le sait, un humour extraordinaire. Mais moi, je le suivais derrière, et je savais très bien ce qu'il voulait donner. Il n'a jamais été déçu de mon dessin, et je n'ai jamais été déçu de son scénario. Donc, il y avait une osmose très forte que je n'ai jamais retrouvée de la part de certains de mes confrères. Parce qu'il y a eu des duos qui se sont créés, mais qui n'ont jamais duré aussi longtemps. Nous, ça a duré 26 ans, dont 18 avec Astérix, et ça aurait duré jusqu'à aujourd'hui, si Dieu avait voulu.
Alors justement, comment est né Astérix, le dessin ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce sont des discussions qui vous ont inspiré, des discussions avec René Goscinny, des photos, des représentations. Comment est né Astérix ? Et puis, on parlera des autres personnages ensuite, à Albert Uderzo.
Oui, alors le dessin d'Astérix est venu d'une mauvaise aventure qui nous embarrassait terriblement, Goscinny et moi-même, à savoir que nous étions toujours demandés uniquement pour faire du sous-Tintin. Et fatigués d'avoir à faire des sous-Tintins parce que ce n'était pas notre but, on a fait l'inverse, c'est-à-dire que René Goscinny, quand il m'a chargé de m'occuper du dessin d'Astérix, moi j'ai commencé à faire un grand guerrier, costaud, du fait de l'image de nos livres d'histoire, nos premiers livres d'histoire, avec Vercingétorix qui était un grand monsieur très fort, puisque les Gaulois étaient, paraît-il, beaucoup plus grands que les Romains. J'ai fait donc un homme assez costaud, et René m'a dit non, ça ne veut pas d'un athlète, fais-moi un petit bonhomme laid, qui soit assez drôle, pas forcément intelligent, mais qui ait de l'idée. Alors j'ai construit Astérix, et comme je suis un entêté, paraît-il, c'est René qui me le disait lui-même, que j'étais un garçon têtu, j'ai fait à côté de lui un personnage qui était finalement presque l'image d'Obélix. Mais il était beaucoup plus carré qu'il n'avait de ventre. Et j'ai dit à Goscinny, tu vois un inconvénient, ce qui est un Gaulois qui soit comme ça, plus fort et plus... Alors il a dit, bon, bah écoute, tu l'as dessiné, on va l'utiliser. Comme on ne savait pas qu'en faire, il n'était pas prévu au programme, on a fait un livreur de menhirs, puisqu'ils étaient situés en Bretagne. Ça, c'est une idée que j'avais eue du fait que René Goscinny m'avait dit, tu les mets où tu veux dans ce village, à partir du moment où ils sont en bordure de mer, pour moi, ce sera plus facile pour les faire voyager. La seule mer que je connaissais, c'était la Bretagne, où j'avais été pendant les durs moments de la guerre, avec mon frère aîné. Et donc, voilà un peu comment les choses se sont construites, d'une façon très, très bizarre, hein, parce que finalement, il n'y avait pas une volonté évidente de faire quoi que ce soit, et surtout, on ne voulait pas d'avoir un chien, évidemment, comme Tintin. Or, il se trouve que là, dans le 10e album, qui est le Tour de Gaulle, curieusement, René Goscinny me met, au moment où les personnages arrivent, font un peu toutes les villes de la Gaule, et ils arrivent à Lutèce, évidemment, il fallait qu'ils ramènent de chaque ville un produit très connu. Et Lutèce, pour nous, c'était le jambon de Paris, le jambon de Lutèce. Donc il dit, il me marque, voilà, il rentre dans une charcuterie de Lutèce, et il y a un petit chien qui est à l'entrée, un petit chien. Mais il oublie de me parler de ce petit chien par après. Tout le scénario est écrit, j'arrive jusqu'au bout. Et avant d'arriver au bout, je lui dis, écoute, est-ce que tu vois un inconvénient? Est-ce que le petit chien suive nos amis? Tu n'en parles pas, donc personne ne le voit. Il est tellement petit que personne ne le voit. Et puis à la fin, la dernière image, il a fait tout ce voyage, le petit chien, uniquement pour avoir un os. C'est ce qui arrive. Et on passait en prépublication dans le journal Pilote. Et là, beaucoup de lecteurs ont dit, oh, ce chien, comment il s'appelle? On voudra le revoir. Et voilà, c'est comme ça qu'on a été piégés. Parce qu'on a fait un concours auprès des jeunes pilotes, des jeunes de pilotes, pour avoir un nom.
Idée fixe venait de deux des lecteurs.
Ce sont trois ou quatre lecteurs qui ont donné ce nom. Mais je ne vous dis pas le nombre de noms qu'on a reçus à foison.
Mais Albert,
Idée fixe nous avait paru le plus court et le plus drôle pour avoir une idée du chien qui n'avait qu'une idée fixe, c'était d'avoir un os.
Mais Albert Uderzo, pour revenir au dessin d'Astérix et d'Obélix, ce que vous avez proposé à René Goscinny, je dis le premier jour, c'est ce qu'on connaît d'Astérix ou ça a évolué au fil des discussions?
Ça a évolué quand même au fil des discussions parce que ne connaissons pas exactement encore, bien j'ai lu le scénario puisqu'encore une fois, René avait ce grand avantage pour le dessinateur, c'est qu'il écrivait le scénario de A à Z. Il me le donnait et à ce moment-là, je savais ce qui allait se passer. Ça me permettait de prévoir l'attitude que pourrait avoir le personnage. Mais comme c'était un personnage qui était un peu malingre, comme on a eu l'idée de cette force extraordinaire que seul cette petite tribu gauloise pouvait avoir pour faire la niche à Jules César, il fallait trouver le système, et donc la potion magique avec le druide a été formidable pour ça. C'est ce qui nous a conduit donc à... Mais le premier épisode, Bélix, apparaît très peu, parce qu'il accompagne, mais bon, il est là dans le décor. Et là, René Goscinny s'est rendu compte qu'il avait besoin de Bélix, d'un deuxième personnage. Plus fort, peut-être, mais avec moins d'esprit que le petit Astérix. Mais la combinaison s'est faite tout de suite. Alors donc, vous voyez, on a été malgré nous conduit à faire deux personnages. Et puis après est arrivée l'histoire du petit chien qui a fait que ces deux personnages ont été accolés à un petit chien, contrairement à ce qu'on voulait avoir.
Merci Albert Uderzo de nous avoir reçus en cette si jolie matinée de novembre 2014. Merci beaucoup et à très bientôt, j'espère.
Merci à vous et bientôt, bien sûr, j'espère.
Anaïs Isbert, Thomas Duterre, Toufik Hakem, Un autre jour est possible. Toute l'équipe vous souhaite de passer un excellent week-end. D'abord, une excellente matinée avec France Culture et un excellent week-end. On se retrouve lundi et à partir de lundi, on parlera de livres. Dernière nouvelle du livre. Retrouvez-nous sur franceculture.fr ou sur les réseaux sociaux habituels. Bonne matinée.